En 2014, j'ai publié dans un ouvrage collectif qui est dirigé par José Mour et Thierry Roche, et qui est consacré à Michelangelo Antonioni, anthropologue des formes urbaines, c'est le titre de l'ouvrage. J'ai publié un article que j'avais intitulé lui-même, sans imaginer à ce moment-là que je viendrais dans le présent colloque, « Le cinéma d'Antonioni et l'urbanité d'époque, de l'ambiance à la forme ». Donc le mot « ambiance » m'était venu, sans que je pense particulièrement aux travaux très doctes qui sont les vôtres par ailleurs. Mais ce mot m'avait semblé indispensable pour lancer ou essayer de dire ce que je voulais dire. Le cinéma d'Antonioni et l'urbanité d'époque, de l'ambiance à la forme. Alors cet article commençait directement par un sous-titre. Il y en avait plusieurs sous-titres, je ne vais pas évidemment refaire tout l'article. Le premier sous-titre, immédiatement lisible, c'était « Du cinéma comme réalisation formelle de l'architecture ». Du cinéma comme réalisation formelle de l'architecture. Alors quand j'écris, je pense que c'est ce qui arrive à toute personne qui écrit, la langue, en l'occurrence la langue française, mais parfois d'autres langues que la française, me proposent des mots. Et parfois, il faut que je fasse des choix. C'est même ça, je pense, une grande partie du travail d'écriture, de faire des choix parmi les mots que les langues nous proposent, plus particulièrement la française pour ce qui me concerne. Mais comme la langue française a une profondeur historique, on entend du latin, on entend du grec, on entend parfois d'ailleurs d'autres langues encore. Ben je choisis les mots parfois avec beaucoup de soin et j'essaye de faire résonner dans les deux orthographes R-E et R-A-I des acceptions des vocables. Alors c'est le cas avec le mot réalisation. On n'est pas obligé d'entendre ce que je vais dire dans le mot, mais néanmoins il y est. Bon. Réalisation, j'entends deux choses. J'entends le mot res latin qui a été évoqué par Bruno Kezan quand j'arrivais vendredi ou jeudi, je ne sais plus. Devenir quelque chose. Hein, donc réaliser, c'est faire passer quelque chose à l'état de res, de chose. Mais il y a aussi le sens anglais, to realize, qu'on pourrait traduire par tu réalises ce que tu dis, tu te rends compte. Alors, on peut le dire sous le ton du reproche, comme je viens de faire, mais ça pourrait être aussi l'émerveillement. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire, voilà. Se rendre compte. Bon. Alors, c'est ça que je veux dire. Le cinéma comme réalisation, c'est-à-dire faire passer à l'état de choses et en même temps compte rendu. Hein, se rendre compte formellement de l'architecture. Alors, je posais l'hypothèse qu'il y a des architectures pour lesquelles il aura fallu le cinéma afin que nous les réalisions. Que nous puissions les réaliser, qu'elles se terminent elles-mêmes en tant qu'architecture et que nous puissions en avoir formellement l'expérience. Et c'est ça que je voudrais préciser. Qu'est-ce que ça veut dire avoir formellement l'expérience de quelque chose ? Alors vous allez me dire quel rapport avec les ambiances ? Ben, c'était tout mon problème pendant la phase de préparation, d'expliciter le rapport avec les ambiances et j'espère que je vais réussir à vous le dire. Alors voici comment commençait l'article. J'écrivais ceci. L'architecte américain Frank Lloyd Wright a proposé de rapporter l'architecture à la construction d'entités. Donc c'est son vocabulaire. L'architecte, pour lui, met au monde des entités. Aussi fonctionnelles, aussi utilisées, aussi entrées dans les mœurs soient-elles, ces entités ne lui semblaient pas, à lui, Frank Lloyd Wright, nécessairement organiques. Donc c'est un autre de ces mots. Donc les architectes mettent au monde ce qu'il appelle des entités qui peuvent être utilisées, qui sont fonctionnelles et qui finissent par entrer dans les mœurs. Mais toutes ne sont pas organiques. Elles ne sont pas nécessairement organiques. Certaines le sont et d'autres ne le sont pas. Donc il y a une distinction. Évidemment, le lecteur des textes de Frank Lloyd Wright cherche à comprendre ce que ça veut dire. Quand je lis ces textes-là, je ne comprends pas plus que vous tout de suite. Mais je me dis que j'ai un travail de lecteur à faire. Qu'est-ce que ça veut dire, cette distinction entre seulement des entités architecturales et des entités qui sont à la fois architecturales et organiques? Il disait aussi, Frank Lloyd Wright, je lis toujours mon article, dans la même intention signifiante qu'elle n'était pas formelle. Donc je m'appuie là-dessus, sur le fait que cet homme-là, qui n'est pas rien dans l'histoire de l'architecture, a proposé une équivalence linguistique entre des architectures organiques et des architectures parvenues au stade de la présence formelle. C'est ainsi que, pour ma part, je définirais l'urbanité. Alors, je n'ai pas besoin ici de préciser, pas l'urbanisme, mais l'urbanité. Une façon d'être civile, sociale, les mœurs. Je définirais l'urbanité comme un ensemble de pratiques qui sont conditionnées par des entités. Alors, est-ce que je peux encore m'arrêter sur mes choix de vocabulaire ? J'écris « conditionné par des entités », je ne dis pas « causé ». Je pense qu'il y a une différence un peu compliquée en logique à faire entre les conditions de possibilité et les causes de quelque chose. Dans un ensemble de conditions de possibilité, quelque chose peut exister et il ne suffit pas que ces conditions soient réunies pour que la chose existe nécessairement. Donc, l'urbanité est conditionnée par des entités, disons, architecturale. Je le définis comme un ensemble de pratiques conditionnées par des entités, comme un milieu de vie fait de constructions et de fabrications diverses, mais qui, le plus souvent, manque de forme et qui, de ce fait, se trouve tenu seulement dans... Alors, c'est ça que j'écrivais. Se trouve tenu seulement dans le registre d'une ambiance ou d'un environnement. C'était en 2014, donc avant que je vienne ici. Donc c'est ce seulement des ambiances sur lequel je me suis dit, il faut que je m'explique pourquoi j'ai écrit « Ce ne sont la plupart du temps les entités qui conditionnent nos mœurs, notre urbanité, ce sont seulement des ambiances ou des environnements et il manque au fond la dimension organique ou formelle dans le vocabulaire de Frank Lloyd Wright. » Alors comment, c'était la question que je posais dans l'article, comment cela est-il possible que finalement nous soyons livrés dans nos mœurs urbains ou urbaines les plus courantes à seulement des environnements ou des ambiances et que ça n'aille pas jusqu'au niveau de l'architecture formellement présente ou de l'expérience formelle de la construction architecturale. Comment pareille situation est-elle possible ? D'où vient qu'un milieu urbain puisse fonctionner sans forme ? D'où vient qu'un milieu urbain puisse fonctionner sans forme. Alors je m'arrête là pour la relecture de mon propre article et j'en viens à mon discours d'aujourd'hui. En relisant ces lignes, donc, qui peut-être ont été cause de l'invitation qui m'avait été adressée à venir vous parler ici à Cerisy, je vois bien que dans mon esprit, ambiance n'est pas plus qu'environnement une notion tout à fait positive. Je vois bien que spontanément, je pensais pas à l'ambiance comme une notion tout à fait positive. Je dis pas une notion négative, hein. Je dis bien pas tout à fait positive, pas complètement positive. Pas suffisante, en tout cas, à définir non pas l'élémentaire de l'architecture et de l'urbanisme. Au contraire, je serais d'avis de dire que ce qu'il y a d'élémentaire dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme, c'est bien de fournir des environnements qui sont dotés d'une certaine ambiance, et on pourrait même ajouter d'une qualité d'ambiance. Mais ce que Sullivan, le mot ne suffit pas à définir, le mot ambiance, ce que Sullivan appela, je vous l'avais normalement sous les yeux, une expression architecturale vraie. Le texte que vous avez sous les yeux, il distingue quatre niveaux. Et je pense qu'on peut, je vous propose en tout cas de considérer que ce que ce colloque aura appelé ambiance, et les travaux autour de ce colloque ont déjà appelé ambiance, dans mon esprit, se situerait au troisième niveau du travail architectural dans le texte de Sullivan que vous avez sous les yeux, et je voudrais parler de la différence entre le troisième et le quatrième niveau. Le quatrième étant le fait de parvenir à une expression architecturale vraie. Ou encore, ce qui ressort, expression through, dans le texte de Sullivan, de, je cite, l'addition d'une certaine qualité et quantité de sentiments. Donc, ma thèse, si vous voulez, ma proposition pour réfléchir ce matin, c'est de dire que ambiance n'est pas un concept tout à fait positif, ou plutôt, c'est un concept nécessaire, c'est une notion nécessaire. Il n'y a pas d'architecture de qualité qui n'implique la fabrication d'une ambiance, si possible, de qualité. Mais ce n'est pas un concept suffisant, ce n'est pas une notion suffisante. Il y a encore quelque chose au-delà de la fabrication des ambiances que, par exemple, ce texte de Sullivan appelle une vraie expression architecturale, expression, voilà, et qui est caractérisée par ce qu'il appelle, encore mystérieusement, j'imagine, pour nous tout de suite, l'addition d'une certaine qualité et quantité de sentiments. Alors, je viens de citer Sullivan, et non pas Frank Lloyd Wright, comme dans l'article consacré à Antonioni que j'évoquais en commençant. On me dirait, c'est une faute de méthode. Je vous dis que je vais vous parler de Wright, et finalement, je mets un texte de Sullivan. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Bon, alors, je n'ai pas le temps de faire la démonstration, mais je pense que ça serait juste une question de patience. Pas difficile à faire de montrer que de l'un à l'autre, de Sullivan à Wright, et même si le second Wright s'est expliqué à un moment donné, à toute fin de sa vie, sur les raisons qu'il a eues de reformuler le propos de Sullivan, c'est-à-dire la fameuse phrase « form ever follows function », je pense qu'on peut considérer que de Sullivan à Wright, il y a une parfaite continuité. Et que lorsque Wright écrit ce qu'il écrit dans les années 30 et 50, du XXe siècle, bien sûr, en fait, c'est la continuation de la pensée de Sullivan. Pour tous les deux, donc, Sullivan et Frank Lloyd Wright, il s'agit d'ajouter, addition, dit le texte de Sullivan, au seulement fonctionnel, pour parvenir à une vraie expression architecturale. Donc, quand je dis ça, je ne fais que les répéter. Là où j'interprète probablement un peu leurs textes ou leurs propos, essentiellement parce que j'introduis dans la réflexion un mot qui n'est pas littéralement dans leurs textes, mais qui, à mon avis, s'y trouve quand même, ou qui y trouve quand même quelques parents ou parentés, là où donc j'introduis peut-être quelque chose pour réfléchir avec ces textes, au-delà de leur littéralité, c'est quand, en pensant que tout environnement appelle de la fonctionnalité, que tout environnement implique quelque chose comme des réponses, hein, que quand on pense en termes d'environnement, on veut dire qu'il y a des stimulus et qu'il y a des réponses finalement adaptatives. Donc, où j'ajoute quelque chose, c'est lorsque, pensant que tout environnement appelle de la fonctionnalité, une réponse adaptative, par exemple, est une fonction de l'environnement, là où j'ajoute quelque chose, c'est quand je dis en substance que l'urbanisme élémentaire, qui, parce qu'il nous environne, attend que nous nous adaptions à lui, ou même, pour utiliser une expression qui me vient de la lecture de Walter Benjamin, attend que nous nous y fassions. Il faut bien s'y faire aux environnements et aux constructions des architectes et des urbanismes. Nous autres qui ne sommes pas architectes et urbanistes, j'entends. Il faut bien que nous nous y fassions. Donc je pense que c'est des réponses adaptatives. On s'y fait. On prend des habitudes. Au début, c'est pas forcément facile. Et puis finalement, on s'y fait. Voilà. Donc je pense que l'urbanisme élémentaire peut parfaitement fonctionner et nous situer dans un milieu ambiant de fonctionnalité où nous sommes capables, à quoi nous sommes capables de nous faire, et cependant manquer de forme. Et je pense que c'est ça qui nous travaille, naturellement. C'est que quelque chose dans ces environnements qui marchent, qui fonctionnent, il y a quand même quelque chose qui manque. Voilà. Et appelons ça la forme. Voilà. Et c'est ça qu'ils voulaient dire, je pense, Sullivan et Frank Lloyd Wright. Il faut encore, au-delà de l'ambiance, s'intéresser à quelque chose, pourquoi le mot de forme leur est venu à l'esprit. Alors, dans tout ce propos, je vous fais remarquer ça, si vous voulez bien, au passage, réside l'idée attribuée à Sullivan et à Wright d'abord, de penser la forme au-delà de la fonctionnalité et de l'ambiance. Addition. Hein, au-delà de la fonctionnalité et de l'ambiance. C'est pour ça que je dis, ambiance est peut-être une notion nécessaire, mais pas suffisante. Au-delà, il y a quelque chose à penser encore et à faire encore. Alors, je peux faire deux remarques, si vous voulez, sur ce que je viens de dire. La première, c'est pour dire que ce que je viens de dire, c'est comme si je disais, l'architecture peut donner quelque chose au-delà de l'ambiance. Et dans le texte de Sullivan que vous avez sous les yeux, cet au-delà de l'ambiance, il le pose comme l'excellence de l'architecture. Je cherche à étudier, ou j'aurais cherché dans mon travail à étudier cet au-delà-là, si j'ose dire. Voilà. Cet au-delà de la fonctionnalité, pour lequel, néanmoins, la fonctionnalité est une condition. Il en faut. Deuxième commentaire, deuxième remarque sur ce que je suis en train de vous dire. Si c'est censé, ce que je dis, alors il nous faut penser ceci. Il n'y aurait pas de forme fonctionnelle. La forme est un au-delà de la fonction. Form ever follows function. Ou bien dans la formulation de Frank Lloyd Wright, ça a donné tout simplement la formule fonction et ET forme. Donc ça ne se confond pas. Je pense que ces gens-là ont pensé qu'il n'y a pas de forme fonctionnelle. Cela dit, si vous voulez, pour les ergonomes, pour aller très très vite, pour les questions de design. Il ne faut pas confondre design et ergonomie. Voilà. Si le design cherche des formes, la difficulté, c'est de penser que les formes ne sont pas fonctionnelles, elles sont au-delà de la fonction, même si la fonction est une condition pour que de la forme existe. Donc, il n'y a pas ou il n'y aurait pas de forme fonctionnelle, ce que tous les critiques du supposé fonctionnalisme feraient bien de méditer. Voilà. Parce que je n'entends que ça, ou j'aurais entendu que ça, des critiques du fonctionnaire. Je signale que c'est une invention des années 50, ce mot-là, à ma connaissance, que Frank Lloyd Wright, Sullivan, etc., aucun d'entre eux ne s'est prononcé quant à lui-même avec ce mot. Hein. Et pour cause, parce que le fonctionnalisme, si ça existe, ce que je ne crois pas, présupposerait qu'il y a des formes fonctionnelles. Or, ce n'est pas ce qu'ils ont dit, et ce n'est probablement pas non plus ce qu'ils ont fait. Voilà. Nous ne saurions justifier par conséquent... Ah oui, il faut tirer les conséquences de ça, c'est-à-dire que nous ne saurions justifier une forme si nous devions justifier l'existence des formes, nous ne saurions les justifier en raison de la fonctionnalité. Une forme n'est pas auprès de nous comme du prêt à servir. Les formes ne sont pas serviables. Ni servile, mais pas serviable. C'est pas la forme, c'est pas quelque chose que nous pouvons penser avec. Ça peut servir. Voilà. Elles ne sont pas là auprès de nous comme le prêt à servir. En fait, le domaine de la forme, c'est, selon le vocabulaire de Sullivan que vous avez sous les yeux, le sentiment. Lequel, vous l'avez lu également, et vous pouvez le lire encore, vient en addition. Dans le texte introductif que j'avais proposé pour ce colloque, m'était venu le mot de supplément. La forme en addition et non pas en augmentation. En supplément et non pas en augmentation. Autrement dit, il n'y en a pas déjà quand l'architecture est à son niveau élémentaire, le niveau 3 dans le texte que vous avez sous les yeux. Et d'ailleurs, quand l'architecture est à ce niveau, quoi qu'elle prenne en considération des questions de sensibilité, au niveau 3, où il n'y a pas encore la forme, l'architecture prend en compte des questions de sensibilité, outgrowth of sound, sensible building, dit le texte de Sullivan, mais ça ne suffit pas pour qu'il y ait ce que le texte appelle sentiment. Ça ne fait pas encore place à ce que le texte appelle sentiment. Donc l'architecture élémentaire, l'élémentaire de l'architecture, la fabrication d'ambiances fonctionnelles, etc., l'élémentaire de l'architecture n'est pas tel, ne s'exprime ou ne s'expose pas de telle sorte que nous en ayons le sentiment. Et ça manque de ça. Ou plutôt, dirais-je, l'architecture élémentaire ne s'exprime pas ou ne s'expose pas, donc je me répète, excusez-moi, de telle sorte que nous en ayons le sentiment. Autrement dit, alors c'est ça que je voudrais interpréter maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une architecture qui fonctionne mais dont nous n'avons pas le sentiment. Une architecture pour laquelle il y a de la sensibilité, aussi bien certainement du côté de ceux qui l'ont faite que de ceux qui la réceptionnent. Sensible building, niveau 3. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Et ça manque de sentiment. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Alors, il faudrait lire tout le texte de Sullivan. Ce n'est pas très long, ça fait une dizaine de pages. Mais c'est un texte, je trouve, très, très dense et très compliqué. Dans la simplicité éventuelle de son vocabulaire, ce n'est pas un texte, je trouve, facile à penser. Alors, je vous propose une interprétation. Je ne dis pas que Sullivan dit ce que je vais vous dire. Mais je m'en sors comme ça, en disant que peut-être une architecture qui manque de sentiments, pour laquelle nous n'avons pas de sentiments, est une architecture ou serait une architecture qui ne vient pas à nous fièrement, avec fierté. J'essaye, avec ce mot de fierté, de traduire ce qui me semble connoter tout un vocabulaire de Sullivan par ailleurs, dans le texte que je ne mets pas sous vos yeux mais que j'ai lu. Une architecture dont nous n'aurions pas le sentiment serait au fond une architecture qui n'est pas fière. Je peux ajouter qu'elle n'est pas fière d'elle-même, qui fait son boulot sans fierté. Non, cette architecture-là, qui ne passe pas fièrement comme telle, comment la décrire? Peut-être je pourrais dire c'est une architecture qui se contient. C'est une architecture qui se retient à la manière de quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, ne s'exprime pas vraiment, ne s'exprime pas complètement ou ne s'exprime pas franchement. Oui, quand on retient quelque chose qu'on pourrait dire, qu'on dit pas, voilà. Et donc on va avoir une expression contenue. Voilà. Il y a quelque chose de contenu dans l'architecture fonctionnelle qui ne va pas jusqu'à l'expression, jusqu'à la sortie au dehors, jusqu'à la manifestation en toute fierté. Alors, ça ne s'exprime pas vraiment, ça ne s'exprime pas complètement ou ça ne s'exprime pas franchement. Voilà. Il y va, à mon sens, d'un assumé. Il y a beaucoup d'éléments urbanistiques qui ne s'assument pas comme architecture. Il y va d'un existé, un assumé ou d'un existé sans justification prétextée. À beaucoup de constructions pour lesquelles l'architecture aura travaillé, il faut des prétextes. J'ai fait ça pour... C'est comme si on se défendait, on se justifie. Voilà. Que peut-être l'architecture, quand elle est à sa vraie expression, elle n'a pas à se justifier. Elle n'a pas besoin. Elle est là fièrement. Dans le texte de Sullivan, il est question de ces grands immeubles de bureaux. Il le dit, ça. Qui ne sont pas à la mesure de leur grandeur. Il décrit les immeubles qu'on construisait à Chicago, des grands immeubles de bureaux. C'est le titre du petit texte, Tall Buildings. Les grands immeubles, on les construisait en disant, mais non, ils ne sont pas si grands que ça. On essayait de les rapetisser dans la perception que ça ne prenne pas trop de place dans la vue, etc. Donc ils n'assumaient pas leur grandeur. Ils avaient besoin d'être grands pour fonctionner, pour rendre le service fonctionnel qu'ils avaient à rendre. Mais cette grandeur devenue nécessaire économiquement, fonctionnellement, etc., il ne l'assumait pas. Voilà. Et donc, il se rapetissait. Il y a une phrase de Sullivan qui m'intrigue beaucoup dans le texte, où il dit finalement, quand il y a de la forme aux grands immeubles de bureaux, tout est grand, y compris le moindre centimètre. Alors, il ne dit pas centimètre parce qu'il est américain, il dit inches. Mais je traduis. Même... un centimètre, c'est un grand centimètre. Voilà. Donc, ça, c'est un immeuble formé, un immeuble de bureau qui a de la forme, assume sa grandeur spécifique, même dans le moindre centimètre. N'étant pas les autres bureaux fièrement les bureaux qu'ils sont, ils se rapetissent dans la moindre de leurs parcelles comme pour faire oublier leur raison d'être. Les unités de mesure, donc, dit ironiquement Sullivan, n'y sont pas de bonne taille, quand bien même sont traitées et satisfaites les conditions élémentaires du bâti. Alors la thèse de mon article, c'était de dire que le cinéma, qui ne se confond pas pour moi avec tout l'art de faire des films, je pense qu'on va en reparler, le cinéma, qui, à mon avis, alors moi je disais ça dans mon livre sur le cinéma, le cinéma n'est pas présent au même degré dans tous les films. Il n'y a pas de la même manière du cinéma dans tous les films. Il y a même des films où il n'y a pas de cinéma, même si ces films sont tournés avec les moyens qui seraient par ailleurs les outils possibles de ce que j'appelle cinéma. Donc le cinéma se pointe, c'est un peu vulgaire comme expression, mais le cinéma se pointe plus ou moins dans les films. Hier soir, je pense qu'on a vu un moment, c'était pas long, mais un moment où le cinéma s'est drôlement pointé. Il n'est pas toujours présent, mais quand il y a du cinéma dans un film, donc c'était le cas pour Antonioni, donc sous la condition que ça soit du cinéma, certains films sont porteurs, ou le cinéma peut dans certains cas être porteur, est encore le cas échéant porteur d'une forme spatio-temporel qui supplée les constructions urbaines élémentaires qui ne sont pas elles-mêmes déjà une vraie expression architecturale. Voilà. Donc la thèse de mon article, c'était d'essayer de montrer dans quelques plans où le cinéma se pointe chez Antonioni ces plans achèvent l'architecture fonctionnelle des grands ensembles des années 60. Alors, il y a des conditions pour ça. Ça supposait que dans le film lui-même, le plan interrompe le déroulement narratif du film, ce qui est le cas, il faut le montrer, chez Antonioni. Je dis, le cinéma peut être porteur de forme architecturale. J'entends le mot porteur. Alors, il y a deux façons. Ça m'est venu après l'écriture de l'article, en travaillant des textes de Paul Klee que cite Deleuze quand il parle des Straub en particulier. Je pense que Deleuze n'a pas tout à fait bien lu Paul Klee, si je peux me permettre, sur ce point. Parce que porter, c'est comme les cariatides, il faut supporter, quoi. C'est lourd, c'est dur, il faut y mettre de la force, etc. Mais il y a aussi un autre sens à porter, qui est la portée de la femelle qui va accoucher. C'est en ce sens-là que je prends le mot porter. Le cinéma est porteur, a une portée architecturale. C'est-à-dire qu'il est gros d'une possibilité formelle ou d'une qualité formelle qui peut manquer dans certains cas à l'architecture réelle, phénoménale. Autrement dit, il nous fait voir ces architectures-là comme nous ne pouvons pas les voir dans la vie réelle et pour cause, hein, puisqu'elles manquent de la forme. Ainsi, le cinéma a-t-il pu et peut-il sans doute encore accoucher d'un sentiment possible pour un certain nombre de constructions, on va dire par ailleurs banalement fonctionnelles. Cela peut se dire en quelque sorte réciproquement, de tel ou de tel environnement urbain, la forme n'est pas au niveau de la seule présence phénoménale, la forme est seconde, elle passe par une formation, celle du cinéma, elle-même porteuse d'un supplément de perception. Il s'agit d'une perception appareillée qui se met à jouer dans nos esprits depuis le cinéma et qui nous permet de trouver la forme manquante d'un certain nombre d'espaces urbains. Alors, il faudrait bien sûr détailler ce propos et j'imagine que Naïm va me poser des questions qui vont m'obliger soit à détailler, soit à être plus clair ou à préciser. Auparavant, si vous me permettez, je m'arrêterai là-dessus pour ce qui me concerne. Je voudrais vous dire deux petites choses encore. Qui sont, je pense que mon travail aura beaucoup consisté à brancher des textes les uns sur les autres, mais enfin il faut justifier naturellement soit parce que ces textes se citent les uns les autres, soit parce qu'ils ont un vocabulaire commun qui m'autorise à passer d'un texte à l'autre. Alors par exemple, je voudrais vous dire deux choses. J'aimerais bien poursuivre la réflexion que je suis en train de mener à voix haute. En branchant le texte de Sullivan que vous avez sous les yeux sur un autre qui aura été écrit en aval, donc plus proche de nous historiquement, et un autre qui a été écrit en amont. Alors le texte en aval, ça serait un texte de Frederick Jameson qui est consacré à l'analyse de la maison de Frank Gehry à Santa Monica. Donc je ne vais pas développer, ça serait beaucoup trop long, mais je pense qu'il y a un rapport entre ce que dit Sullivan tel que j'essaye de le commenter et ce texte de Frederick Jameson, c'est dans le postmodernisme consacré à la maison de Frank Gehry. Et une des questions est justement comment est-ce que on peut avoir aujourd'hui un sentiment, ou qu'est-ce que c'est que le sentiment de l'architecture, enfin bref. Il y aurait une lecture possible ou un raccord possible. Et puis le deuxième texte, je vais en parler un tout petit peu plus, ça serait de brancher le sentiment là, de Sullivan sur un texte en amont qui est un texte de Kant, dont il a été question, Bruno Cézanne a fait une allusion, je crois, hier. Ça se trouve dans la critique de la faculté de juger, c'est le début de l'analytique du sublime. Alors, pour ceux qui voudraient se reporter au texte que je n'ai pas amené, dans la traduction publiée par les éditions Folio, c'est page 217. Vous voyez, je suis très précis. Alors, j'aime bien parce que c'est un endroit où Kant fait une note. Moi, j'aime bien les notes de Kant. Quand il bricole son propre texte, ça m'intéresse beaucoup d'aller voir ce qui se joue là. Parce que comme s'il dit, ce que j'ai écrit là, ça ne suffit pas, il faut une note. Enfin bon, justement, il y a une note. Voilà. Et Kant dit, avec le ton dogmatique dont il est capable, qu'il ne faut pas confondre le sentiment avec la passion et le penchant. Bon. Le sentiment, il le distingue en note de la passion et du penchant. Et cette note renvoie, dans le cours du texte, à un passage dans lequel il exemplifie le sentiment par une référence à la construction architecturale, quand même, bon, hein, intéressant, et il exemplifie le sentiment en disant, donc, dans le sentiment, il n'y a pas de passion, je ne suis pas passif. Et mon désir, ce n'est pas un penchant, le désir que j'ai pour la chose n'est pas engagé. C'est ça que dit Kant, je ne sais pas s'il a raison, mais c'est ça qu'il nous dit. Voilà. Avoir un sentiment... Il n'y a pas feeling dans le texte de Sullivan. Je me dis qu'il doit y avoir une raison, quoi. Avoir un sens du sentiment, ça n'engage pas le désir qu'on a pour quelque chose. Et on n'est pas passif. C'est pas une passion. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, dit Kant, un sentiment, c'est quand je suis étonné ou bien lorsque j'admire. Alors, je n'ai pas le temps de développer... mais Kant dit l'admiration, je simplifie un tout petit peu, admirer quelque chose, c'est être étonné durablement. L'admiration, c'est un étonnement qui dure. C'est ce qu'il dit. Bon, après, méditez, hein. Voyez si ça vous va comme définition. Bon. Mais lui, il dit ça. Voilà, le sentiment, c'est, par exemple... l'étonnement ou l'admiration. Alors l'étonnement serait intéressant parce que, de continuer, parce que Baudelaire dit quelque chose là-dessus. Enfin, on peut faire... Donc le sentiment se lierait, si on peut en croire Kant, à une perception étonnée. Donc c'est peut-être ce qui manque dans les éléments urbains qui sont seulement de l'architecture fonctionnelle, c'est que finalement, et d'ailleurs peut-être c'est ça qui est recherché dans une certaine mesure, surtout que les gens ne soient pas étonnés, ou même pas durablement étonnés, que ça rentre dans les mœurs, qu'on s'y fasse. S'y faire, prendre des habitudes, c'est perdre l'étonnement. Hein, l'admiration, dit Kant, c'est de l'étonnement qui dure. Donc on ne perd pas l'étonnement. Donc, peut-être quand il y a de la forme, on continue à être étonné, et dans une certaine mesure, on ne s'y fait pas. Voilà. Et en même temps, on n'est pas malheureux, hein, bien entendu. Voilà. Mais en tout cas, le sentiment se lierait à une perception étonnée, et il faut remettre ça dans le contexte de l'analyse, de la critique de la faculté de juger, l'analytique du sublime, etc. Se lierait, ça n'est pas un pur percept, ça n'est pas une pure perception. Quand il y a étonnement, c'est peut-être parce que je ne suis pas seulement en train de percevoir ce que je perçois. Ce n'est pas seulement sentimental au sens habituel du mot. Ça fraye une voie. Voilà ce que serait l'étonnement, si j'ai bien compris le passage de Kant. C'est lorsque une perception fraye... Alors, je traduis, il ne dit pas ça comme ça, bien entendu. Il y a étonnement lorsque un moment sensible, perception, fraye la voie, sollicite, et c'est ça l'étonnement, un travail des idées de la raison, ou avec les idées de la raison. C'est, moi j'aime bien le mot embrayer que j'ai trouvé chez Benjamin, ou engrenage, hein, une perception qui embraye sur une idée, ou une idée qui embraye, parce que, un engrenage, ça s'engraine, vous voyez. Quand il y a sentiment, il serait question de ça. Une perception articulée à une idée, frayant la voie à un travail des idées. Autrement dit, quand il y a sentiment au sens peut-être de Sullivan, il y a une part d'intellect. Le sujet qui perçoit n'est pas abandonné à la pure sensibilité. Il y a une part d'intellect, fut-il cet intellect, parce que ce sont des idées de la raison, et chez Kant, c'est pas rien, c'est pas des concepts de l'entendement. Alors, quelle est la différence? Concept, je parle latin, capere, c'est attraper, et le cum, ça veut dire on peut tout prendre. Hein. Le comprendre, c'est une traduction de concept. Concept, c'est latin, comprendre, c'est plus français. Là. Prendre, cum, et tenir, avoir la main sur. Les idées de la raison, ce n'est pas des concepts chez Kant. Voilà. Et si je comprends bien le passage où sentiment est défini, quand j'ai le sentiment, quand pour quelque chose je peux parler à bon droit de sentiment, c'est que va s'engager chez moi, le sujet percevant, un certain travail avec les idées et pas les concepts. C'est-à-dire je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est pour ça que je suis étonné. Je ne comprends pas. Néanmoins, ça me fait penser. Idée de la raison. Voilà. Quelque chose vient à la perception, avec la perception, qui m'étonne. Hein, c'est-à-dire, en fait, qui embraye de la pensée sans que cette pensée soit une compréhension de la chose qui arrive. Étonnement ou, par branchement de texte, sentiment chez Sullivan. Donc, je pense que peut-être il faut aller jusqu'à penser ça, quoi. Au-delà des ambiances, le sentiment, au sens que je viens d'essayer de vous dire. Voilà.
Alors, au centre de ce que vous proposez dans le texte, il y a la proposition que le cinéma, en tant que forme seconde, complète d'une certaine manière des environnements ou bien des ambiances auxquelles il manque quelque chose, la forme, justement. Vous nous disiez d'ailleurs, en préparation de cette intervention, il ne s'agissait pas d'un geste systématique dans le sens où certains ensembles architecturaux ou urbains sont bien, bel et bien terminés. Vous avez même utilisé l'expression suivante, il y a des fois où l'architecte fait son boulot, jusqu'au bout. Je suppose alors qu'il y a un moment où le cinéaste seconde l'architecte qui n'aurait pas terminé ce travail, il y aurait donc quelque chose de commun entre ces deux, disons, disciplines. Et c'est avec cela en tête que je remarque comment, dans votre texte, vous amenez une sorte de cousinage entre Antonioni cinéaste et Frank Lloyd Wright architecte. Vous affirmez cette proximité à travers une certaine conception de la forme chez Wright, vis-à-vis d'une certaine pratique du cinéma pour Antonioni. Et je voudrais ajouter à cela autre chose, car il semble que ce rapport peut tenir aussi à une certaine conception de l'espace. Alors, votre texte ne caractérise pas directement ce qu'est, à mon sens, un espace architectural. Par contre, il nous donne avec force une image de ce qu'est un espace cinématographique. Et il semble surtout se définir pour vous à travers le montage. Et vous indiquez qu'Antonioni nous propose par le montage un type d'espace que vous qualifiez de parcellisé. C'est le terme que vous employez, parcellisé. Et cela est affaire de montage, puisque vous expliquez que cet espace résulte d'une manière limite de faire champ contre champ, en faisant jouer des vues qui n'ont a priori pas de relation diégétique. Je pense que c'est assez clair, peut-être qu'on reviendra sur qu'est-ce que ça signifie, compris techniquement. Alors, donc je répète, une certaine manière de faire, une manière limite de faire champ contre champ, en faisant jouer des vues qui n'ont a priori pas de relation diégétique. Alors, partant de là, je me suis permis une petite digression. car cette description que vous faites de la nature du montage chez Antonioni me rappelle une discussion très récente que j'ai eue avec Alexandre Costanzo, qui est dans la salle, à propos du film pour lequel je me lance dans le montage et dont j'ai montré quelques plans hier. Alexandre me faisait remarquer que ce film pouvait devenir une sorte de film muet, ainsi nommé, car il ne se construisait pas selon une logique de champ contre champ, plutôt assez rarement, mais plutôt sous la forme d'une succession de tableaux où chaque plan était considéré comme un monde en soi. Chaque plan était considéré comme un monde en soi. Il manquait donc à ce film à venir des ficelles pour le faire tenir, par exemple des ficelles comme le champ contre champ ou le scénario. Et il fallait donc se poser la question suivante: comment faire tenir ces plans ensemble sans ficelles? C'est donc avec cette idée en tête aussi que j'ai lu votre texte et relu votre texte. Et j'ai alors pensé au rapport que vous faites avec Frank Lloyd Wright, mais sur ce point qui n'est pas, il me semble, explicite dans votre argumentaire, celui de la forme des architectures, ou plutôt la forme de l'espace de ces architectures. C'est que, je crois, Frank Lloyd Wright amène une conception nouvelle de l'espace qui est particulièrement forte et explicite, notamment dans les maisons individuelles qu'il a construites. Et c'est un espace que l'on peut décrire comme, je dirais, centripète, où les plans sont comme flottants, non raccordés entre eux. En fait, ils le sont matériellement, mais par des surfaces vitrées, et c'est plutôt la lumière qui donne cette idée de plan qui flotte. Et il y aurait même alors une analogie à explorer entre la séquence de la maison qui explose à la fin du film Zabriskie Point, donc qui est un film d'Antonioni. On voit une maison exploser à la fin, donc un espace centripète et des plans qui explosent littéralement. Et donc ce plan est telle ou telle maison conçue par Frank Lloyd Wright, comme si au fond, ce plan de fin du film, l'explosion, réalisait littéralement et radicalement ce qui était recherché par l'architecte. Donc cette idée d'un espace fait de plans autonomes, on la retrouve aussi chez d'autres architectes modernes, c'est l'idée d'un espace qui, me semble-t-il, est à la fois fait d'éléments discrets, ces plans qui sont pris comme des éléments autonomes, en même temps qu'il devient un volume sans bord, où la distinction entre intérieur et extérieur devient problématique, mais peut-être ma pensée va-t-elle vers des rapports trop analogiques entre espace cinématographique et espace architectural, c'est à mieux réfléchir. En tout cas, c'est cette idée d'un espace disloqué qui m'a retenu en premier lieu, et ce qui me frappe, c'est que votre texte semble suggérer que l'émergence de la forme, en tout cas la présence de la forme, est en rapport au moins au cinéma avec ce type d'espace disloqué. Ma première question pourrait donc tourner autour de cette interrogation sur l'espace. Y a-t-il rapport nécessaire entre ce type d'espace donc disloqué et la forme? Et avec une sorte de sous-question à celle-ci, comment faire tenir un espace disjoint? Comment résoudre cette contradiction apparente entre ce qui est disjoint et ce que vous nommez dans le texte à un moment donné la question de la synthèse?
Alors, peut-être que répondre à des questions, en réalité, c'est reprendre le vocabulaire des questions et puis le déplacer un petit peu. Alors, est-ce que je peux faire ça? Alors, je vais le faire sur trois points. Mais avant de faire les légers déplacements de vocabulaire, je voudrais faire une remarque, disons, globale, qui est... peut-être qu'il vaut pour toute la discussion. Le texte de Sullivan que vous avez sous les yeux avec les quatre niveaux, il est supposé, évidemment, puisque c'est un texte de Sullivan, consacré à l'architecture. Je pense qu'on pourrait aussi bien le proposer à des étudiants de cinéma et dire c'est une définition du cinéma. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes questions. D'ailleurs, ils sont contemporains. Je veux dire, on dit que l'invention du cinéma, c'est 1895, le texte est de 96. Enfin bref, le design aussi, hein, c'est la même période. C'est-à-dire, il y a des films qui répondent à des besoins, hein, à des niveaux, disons, 1 et 2 du texte, qui peuvent y répondre avec des qualités élémentaires en y mettant de l'ambiance, et il manque la forme. Voilà. Et on pourrait, à mon avis, développer exactement les mêmes analyses que celles que j'ai faites un peu rapidement, et d'ailleurs abstraitement, pour le cinéma comme pour l'architecture. C'est-à-dire, je sais pas, j'aime pas le mot structure, mais j'en trouve pas d'autres pour le moment. Structurellement, c'est la même chose pour moi, au fond, le cinéma et l'architecture. Donc ça, c'est une remarque générale. Hein, on peut penser ensemble, finalement, ou avec les mêmes concepts, ou avec les mêmes réflexions méthodologiques. Bon. Alors, les trois éléments de réponse, pour ce que j'ai compris de la question, bien sûr. Alors d'abord, peut-être il faut clarifier ces histoires de champ contre champ chez Antonioni. Ce que tu as pointé dans l'article sur Antonioni, donc c'est un passage qui est consacré à une séquence du désert rouge de film d'Antonioni. Je dois ce que je vais vous dire en partie à moi, pour le dire sans modestie, mais d'abord à quelqu'un qui s'appelle Clotilde Simon, qui dans le bonus du DVD par les éditions Carlotta, où il y a le film, dit quelque chose sur ce passage qui est pour moi absolument déterminant, éclairant, et je lui rends tout à fait la maternité de ce que je vais dire à l'instant, mais que je reformule à ma façon. Donc il y a un moment dans le film. Alors, c'est ça, le cinéma se pointe dans les films, ça ne dure pas longtemps. Il n'y a pas longtemps du cinéma dans les films. Pourquoi ? Parce que les films ont peut-être une autre raison d'être que de seulement présenter du cinéma. Ils ont, par exemple, une raison d'être, on va dire, culturelle, qui est de raconter des histoires sur un mode filmique. Et peut-être que les cultures, les nôtres en tout cas aujourd'hui, ont fonctionnellement besoin que des histoires leur soient racontées sur le mode filmique. Et dans ce cas-là, les films satisfont des besoins culturels. Et il n'est pas question pour moi de négliger cet élément-là. Simplement, ça ne suffit pas à définir le cinéma. L'appareillage du cinéma peut autre chose que seulement répondre à ces éléments fonctionnels. Et par exemple, il peut nous étonner au sens que je viens de dire, c'est-à-dire inscrire dans nos esprits une perception singulière qui nous installe comme être au monde au-delà de la fonctionnalité. Ce que je pense sont les êtres humains. C'est-à-dire, pourquoi je parle de tout ça ? Parce qu'il me semble que les êtres humains ne sont pas des bêtes. Et qu'il y a quelque chose qui nous tient comme humain et dans l'humanité, qui est au-delà du fonctionnel. Et prendre garde à ça, c'est pas rien. Voilà. Donc, sans doute, nos cultures ont besoin que des histoires leur soient racontées aujourd'hui sur le mode communicationnel des films, mais peut-être que ça ne suffit pas, encore une fois, que l'humanité attend quelque chose que j'inscris pour ce matin dans l'ordre du sentiment et de l'étonnement. Alors, donc, je pense qu'Antonioni faisait ça très bien, c'est-à-dire il fait des films qui sont de niveau 3 et de niveau 4. Hein, si on dit le... Et évidemment, je m'arrête au niveau 4, particulièrement dans l'article. Donc il y a un moment dans Le Désert Rouge, ça passe très très vite. Il y a trois plans consécutifs. Il y a lui, il y a elle et il y a eux, tous les deux. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais peu importe. Hein. Alors, peut-être pourrais-je dire, d'abord, il y a une maison. À un moment donné, on la voit, etc. Bon. Ensuite, il y a, mettons que ça commence par elle. Ensuite, il y a lui. Et en fait, on ne sait pas où ils sont. On pourrait très bien penser, quand on le voit lui après elle, qu'il est ailleurs. Et d'ailleurs, il ne semble pas lui répondre. Après, il y a un plan qui me fait comprendre, me fait voir qu'ils sont dans le même espace. Alors ça m'intéresse beaucoup, et ça n'a l'air de rien, parce que lorsque j'arrive au troisième plan, je comprends qu'ils sont en train de se disputer. C'est d'ailleurs pourquoi ça ne se répondait pas. Voilà. Mais qui sont ensemble dans le même espace, que peut-être ils vont se séparer. Alors ils étaient séparés visuellement, ils vont peut-être se séparer psychologiquement dans la suite de l'histoire. Et donc je rentre dans un processus de suivi dramatique. Qu'est-ce qui va leur arriver ? Est-ce que ce couple va se défaire, etc. Et donc j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'avoir le plan suivant et le plan suivant, etc. Pour, donc ce troisième plan me projette dans un espace temps, dans une temporalité en réalité diégétique. Hein, je veux savoir la suite, donc aller plus loin. Ça, c'est du sens, au sens premier du mot sens. Pour qu'il y ait du sens au sens de signification, il faut qu'il y ait du sens au sens du sens. C'est-à-dire, le sens de ma phrase, c'est tout à l'heure que vous l'aurez. Et vous trouvez que ce que je dis, c'est sensé, parce que vous faites le pari que je vais terminer ma phrase de façon intelligente. Et vous vous demandez un petit peu quand même si je vais y arriver au bout de ma phrase de façon intelligente. Voilà. Mais ce que fait Antonioni là, c'est qu'en même temps qu'il nous engage dans un processus sensé, quand je suis au troisième plan, je revois le plan 1 et je ne le comprends pas de la même façon que je le comprenais sur le moment. Et donc le film avance dans ce sens-là et aussi dans ce sens-là. Est-ce que je suis clair dans mon explication ? Voilà. Ça, ce que je fais là, si je dis conceptuellement, je dis distraction. Ça me distrait. Mot pour moi à ne surtout plus confondre avec divertissement. Je pense que quand Benjamin parle de distraction, j'ai mis du temps à comprendre ça. Si je peux vous en faire gagner, je le fais. Comprendre que chez Benjamin, il ne faut surtout pas comprendre distraction comme divertissement. Si vous ne comprenez rien, voilà. Vous allez vous embrouiller, quoi. Distraction, ça veut dire je suis tiré dans deux sens. Voilà. Donc, je veux savoir la suite et en même temps, je revois le film. Voilà. Alors, je pense que quand le cinéma se pointe, il y a des choses comme ça qui arrivent. Quand le cinéma se pointe dans un film, il y a des choses comme ça qui arrivent. J'ai aussi analysé dans le même esprit ailleurs, dans le livre que j'ai fait sur le cinéma, le début de Masculin-Féminin de Godard, ou d'autres séquences de films où Godard a un traitement du champ contre champ qui est incroyable, parce qu'en réalité, il ne retourne pas simplement la caméra dans un espèce de dialogue. Il désaxe le plan d'après, remet en vue la personne qui parlait, l'espace de la personne qui parlait au plan d'avant, mais en réalité ce sur quoi l'image se centre, c'est là où était la caméra, pas là où était la personne qui parlait, mais là où était la caméra. Et vous avez la même chose, c'est-à-dire le film engage un processus narratif et en même temps vous remontez votre perception vers l'arrière, hein. Et je pense que ces moments de distraction installent quelque chose ou sont capables d'installer quelque chose comme ce que j'ai appelé là l'étonnement ou le sentiment du film. Pourquoi j'ai le sentiment du film, et donc ça devient du cinéma, parce qu'il y a quelque chose comme ça. Donc ça, c'était pour clarifier le traitement du champ contre champ chez Antonioni. Premier élément de réponse. Alors, deuxième élément de réponse, tu disais dislocation. Alors, bon, dans distraction, dislocation. Et puis, on avait parlé dans la partie off de nos entretiens du livre de Benoît Goetz, La dislocation. Tu disais que tu l'avais lu et que ça t'avait. C'est un livre qui était important pour toi. Moi, je proposerais de substituer à dislocation, qui a quand même un petit côté négatif. Le disloquer, ça se tient pas bien, quoi. On peut très bien entendre négativement ce mot. Je proposerai un mot qui peut-être finalement a le même couvre le même champ sémantique profondément, mais s'entend tout à fait autrement, qui est celui de rythme. En lisant Benveniste il y a longtemps, j'ai appris à penser que c'était un mot spatial pour commencer. Alors aujourd'hui, rythme, ça nous semble être une notion temporelle. Mais dans les sources indo-européennes, si cette expression fait sens, ça désigne une certaine qualité d'espace ou d'espacement. Voilà. Et si je reste dans les évocations temporelles, alors il y a des musiciens dans la salle, je fais attention, mais il me semble, moi, j'entendrais une cadence comme étant la répétition de quelque chose. Pour qu'il y ait rythme, il faut que s'installe une différence. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fait qu'il y a un accent ici et pas là, ou pas le même ici et là. Il y a de l'ici et là. Il y a pas d'uniformité. Quelque chose de ce type-là. La maison d'Adolphe Loos qui nous a été présentée et analysée hier. On pourrait dire quand il présente les plans, il y a de la dislocation là-dedans. où on peut dire c'est un espace rythmé. Et peut-être j'ajouterais c'est un espace parce que c'est rythmé. C'est plus qu'un environnement, c'est un espace parce que c'est rythmé. Donc moi c'est ça que je dirais, que finalement l'espace a profondément affaire au rythme. Peut-être le rythme est constitutif de la spatialité ou quelque chose comme ça, voilà. Et que dans un certain nombre de milieux fonctionnels, on amortit la qualité rythmique justement de l'espace, pour qu'au fond il passe inaperçu, pour qu'on puisse s'y faire peut-être sans trop de difficultés, voilà. Et donc finalement, c'est pas la peine que je fasse le troisième point de réponse parce que je l'ai dit en passant, je pense qu'il y a un rapport entre, alors non pas l'espace disloqué ou l'espace tout court, mais entre la rythmicité consubstantielle de l'espace et la distraction. Avant-hier, on a entendu un morceau de musique. Alors vous étiez deux à jouer, je ne sais pas si vous acceptez ce mot. Je pense que le premier tiers, pour moi, c'était une musique qui revenait du temps à l'espace. Parce que, bon, on pourrait définir la musique comme étant quelque chose qui est essentiellement temporel. Et là, moi, j'avais affaire à quelque chose où il y avait un son là-bas et un son ici. Et d'ailleurs, le public, à ce moment-là, se disséminait dans l'ensemble de réceptions. Je ne pouvais pas entendre de façon synthétique ce qui m'était proposé. Alors, on peut dire que c'était une musique disloquée ou disloquante. On peut dire que c'était un exemple de rythme. Et on peut dire que c'est ça qui a fait l'espace.
Donc, ma deuxième remarque va du côté du son, encore. À y venir. Parce que je remarque que les exemples que vous donnez de séquences dans les films d'Antonioni, et là encore en le rejoignant ici, avec cette histoire de trois plans, sont des exemples, disons, qui, dans la description, sont des exemples visuels. Et je me pose alors les questions suivantes. Comment le son au cinéma participe pour vous de cette idée de forme et quelle place prend le son dans votre idée de forme seconde? Cette interrogation, elle me ramène ici à deux choses. Tout d'abord, l'expérience habituelle de la réalisation de films. Il semblerait que le son occupe majoritairement une place seconde dans le processus cinématographique lui-même. Il y a des exceptions, mais quand même, la plupart du temps, il est vrai qu'on pense au visuel avant de penser au sonore, ce qui n'empêche pas le son d'avoir une place, une importance cruciale, au point que beaucoup de cinéastes peuvent dire que le son est même plus important que l'image visuelle. L'image sonore serait même plus importante que l'image visuelle. Le son occuperait-il un rôle second, dans le sens qu'il viendrait terminer quelque chose que l'image ne pourrait faire par elle-même, l'image visuelle ne pourrait faire par elle-même. Et puis, pour aussi trouver des exemples qui vont nous permettre de continuer à avancer cette question, je voudrais rapidement évoquer le film que Jean-Marc Chapouly, en cours de montage, va présenter ce soir. Donc un film sur la Méditerranée, construit à partir d'images prises sur des sites de vidéosurveillance, on ne dit pas trop quand même, mais ces images, en fait, vous le verrez ce soir, sont des images qui arrivent muettes, enfin, que Jean-Marc récupère muettes. Et il y a deux opérations qui mènent. Il y a à la fois le fait de trouver ces images, enfin même d'attendre dans ces images que quelque chose se construise et de retenir. Mais il y a aussi autre chose qui consiste en fait à bruiter ces plans. Et pour avoir vu Jean-Marc au travail, je remarque à quel point, dans cette situation, le son met en forme les plans, qui donne au paysage cadré par les caméras de surveillance quelque chose de plus que ce qu'il semble être au premier abord, à savoir des alignements de parasols, de conteneurs, des agencements d'espace fonctionnel, qui seraient une forme de pur spectacle de l'industrie. J'ai l'impression, on vérifiera aussi ce soir, que dans ce travail sonore, il donne forme à des plans qui, sans ça, seraient aussi des plans, je dirais, fonctionnels. Et peut-être qu'autour de cette question du son comme forme seconde, on pourrait aussi prendre en compte, en revenant à Antonioni, le fait que les films d'Antonioni sont aussi post-synchronisés, ce qui était le cas de tous les films italiens de cette période et un peu après, c'est que le son est aussi une fabrication. Voilà.
Ça, c'est une question qui intéresse Naïm, mais moi qui m'embarrasse. Parce que j'ai pas vraiment souvenir d'avoir jamais vraiment travaillé sur le son. Et donc, j'ai été obligé de chercher la réponse ou simplement une proposition. Donc, trois éléments. Alors d'abord, j'ai répété pendant des années aux étudiants qui voulaient bien suivre les cours que je faisais et m'écouter. C'est une de mes formules favorites, qu'il ne faut pas confondre le second et le secondaire. Que peut-être il y a des choses qu'on ne peut faire qu'en second, et néanmoins, ce n'est pas secondaire du tout. L'idée que ce qui compte, c'est ce qu'on ferait d'abord, oui, sans doute. Mais ça ne veut pas dire que des choses qu'il faut faire ou qu'il serait bon de faire peuvent être faites en premier. Alors c'est problématique pour quand on a alors c'est problématique pour l'architecture au sens premier du mot. Par exemple, quand je trouve ce mot chez Aristote, je suis à peu près sûr qu'Aristote ne dit pas à ce moment-là architecte au sens d'aujourd'hui. Mais comme il parle grec mieux que nous. Il dit architectos, le archi que vous entendez dans architecte, qui est la racine de arché, archive, le commencement, le principe, si je parle latin, hein, le premier, etc. Donc il y a un petit texte d'Aristote que j'ai en tête, dans lequel il me semble qu'on voit clairement comment on en est venu à définir l'architecture comme on la comprend, comme art du projet, mot latin. Donc pas mot grec. L'architecte, c'est celui qui est capable de dessiner et d'archiver d'avance, c'est-à-dire en premier, le tecton, le toit, c'est-à-dire ce qui sera le dernier geste dans la construction à l'époque. Celui qui est capable de graphier, de donner un graphique de la fin avant même que le commencement ait eu lieu. Voilà, de l'architecture, ouais. Et qui, moi j'ai fait un livre hein, qui s'intitule Commencer à deux et qui est une discussion critique sur le concept même d'architecture où j'essaye de parler de ça. L'idée que, en fait, il faudrait, au fond, que tout serait donné dans le premier geste, que c'est se prendre pour Dieu, ça. Hein. Il y a que lui qui est capable de ça, je vous signale, d'avoir tout compris d'un coup. Nous, pas. À moins qu'on se surmène, qu'on devienne des surhommes, on ne comprendra jamais tout d'un coup, et sûrement pas tout d'abord. Voilà. Donc pour moi, c'est très important de bien dire ça. Ce qui est second n'est pas secondaire. Et il y a probablement bien des choses essentielles que nous ne pouvons faire qu'en second lieu. Comme par exemple, donner de la forme. La condition nécessaire, il faut qu'elle ait eu lieu pour que quelque chose de suffisant éventuellement ait lieu ensuite. Hein. Alors peut-être que le son, pour revenir plus directement à la question, au cinéma, ça se traite en second, aussi bien dans la fabrication que dans le... Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que dans les enregistrements, il peut y avoir du son contemporain de la prise de vue, mais disons, en effet, peut-être qu'on traite en second lieu du son, ça veut pas dire que c'est secondaire du tout. Et que même, probablement, c'est très structurant dans le sentiment de la spatialité. Alors, la deuxième chose que je peux dire par rapport à cette question embarrassante qui concerne le son, c'est que peut-être, ça a été évoqué, comment dire ça Bon, je dois ça à la lecture d'un passage d'un anthropologue qui s'appelait Leroy Gourhan, qui déplore, alors j'aime beaucoup Leroy Gourhan, mais à la fin du geste et la parole, il y a un passage où il se lâche un petit peu, il devient assez pessimiste sur le monde comme il est, et je regrette ce passage pour ma part chez le roi Gouran, parce que là, il fait une critique de l'audiovisuel, de la culture d'aujourd'hui, que je trouve un peu dommage. Dans ce passage-là, en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant, malgré tout, qui est en gros ceci, consiste à... Moi, ça m'a fait remarquer que le chant visuel et le chant sonore ne sont pas compatibles. Et le roi Gouran ramène ça à des considérations extrêmement archaïques dans l'espèce humaine, c'est-à-dire que nous avons des yeux pour nous avertir de ce qui est devant et des oreilles pour être informés de ce qui arrive derrière. C'est-à-dire que les oreilles supplaient à l'insuffisance de la visualité humaine. Et si j'ai bien compris, le roi Gouran dit, en tout cas moi, il me fait penser, ce texte-là me fait penser la chose suivante, c'est que la vigilance, parce que j'avais fait un article sur l'attention qu'on m'avait demandé du côté de la pédagogie plutôt, bref, qu'est-ce que c'est qu'être attentif, vous voyez, la vigilance, non, vigilance, être éveillé. Ah oui, je vais vous dire un truc sur l'éveil, je vais le noter parce que sinon je vais l'oublier. Hier soir, je me suis dit, il faut que je leur dise ça, puis après j'ai plus pensé. Bon. La vigilance, c'est ce qui motive la critique de le roi Gouran à l'encontre de l'audiovisuel, c'est l'accaparement simultané du champ visuel et du champ sonore. C'est-à-dire, ça nous prend en même temps et sur la même focalisation les yeux et les oreilles. Et alors ça, c'est pas bon. Parce que on perd toute vigilance. Alors là où je ne suis pas le roi Gouran, jusque là je suis, c'est dans le désespoir que ça génère chez lui. C'est-à-dire précisément, je pense que le cinéma consiste à ne pas focaliser de la même manière le champ sonore et le champ visuel, et que les grands cinéastes, Bresson, Straub, je trouve que ça serait plus compliqué. Qu'est-ce que je pourrais dire? Enfin bon. Comment dire, font entendre la divergence, la distraction réciproque du sonore et du visuel. Et les mauvais films, c'est-à-dire les films tout court, qui se consacrent à juste satisfaire la demande de récit, qui sont pas du cinéma, par exemple, vous regardez, je cite ça dans mon livre sur le cinéma, un plan de... Alors c'est un film qui me fait pleurer, je suis comme tout le monde, je suis sentimental. Mystic River, un film de Clint Eastwood, sur la route de Madison. Donc je suis normal, hein, je pleure à ce film, côté dramatique, je prends comme tout le monde, mais je n'ai pas de sentiment pour ce film, et d'ailleurs ce film n'attend pas que j'ai du sentiment pour lui, parce que par exemple au début vous avez un plan très large, c'est un plan, un paysage. Et j'entends, alors je ne sais plus si ça vient de la gauche ou de la droite, mais peu importe, je vois là-bas, à gauche, dans le champ visuel, quelque chose qui bouge, etc. Et puis j'entends un bruit, et cette chose va traverser l'image et se rapprocher du premier plan, et pour finir à droite, et même sortir. Et là, vous avez son Dolby stéréo, hein, un son qui s'amplifie, qui part de la gauche, qui passe à droite et qui sort quand la voiture sort. Donc là, vous avez une concentration du sonore et du visuel qui est juste déplorable, pour ce que je veux dire en tout cas. Hein, et qui, alors ça, le roi Gouran a raison de dire, ça prend l'attention et c'est du divertissement au sens strict du mot. C'est-à-dire que le divertissement, c'est ce qui détourne l'attention d'elle-même. On peut pas avoir de la vigilance dans ces conditions-là. Mais peut-être que justement, il y a d'autres façons d'articuler le sonore et le visuel, de les mettre en distraction réciproque. Et à ce moment-là, il y a de l'espace, voilà, puisqu'il y a du rythme entre le visuel et le sonore. Alors, je peux ajouter une petite chose. La petite chose que j'ai envie d'ajouter, c'est la suivante. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, je vais un peu jouer sur les mots, parce que vigilance, ça veut dire veille. Alors, éveiller, c'est avoir les yeux ouverts ou les oreilles ouvertes. Enfin, les sens, pas être assourdi, pas être aveuglé. Et je pense, ce qui m'aura intéressé beaucoup dans mon travail, c'est de chercher les conditions de ce qu'il m'est arrivé d'appeler l'éveil de la conscience. Quand est-ce qu'une conscience s'éveille? Quand est-ce qu'une conscience se lève? Pour jouer sur les mots, le matin je m'éveille, je me lève, etc. Quand est-ce qu'une conscience se lève? Voilà. À quelles conditions de la conscience se lève chez les humains? Voilà. Donc il me semble que la condition de la levée de la conscience, de l'éveil de la conscience, c'est quelque chose comme ce que j'ai appelé ce matin le sentiment, l'étonnement, la spatialité, une sorte d'interruption des dispositions et des dispositifs narratifs qui nous font toujours aller vers la conscience attentive. Ce que Benjamin appelait non pas la conscience amortie, parce qu'il y a des consciences amorties, comme on dit, il est amorti celui-là, et pas la conscience amortie. Vous voyez, Benjamin oppose ça dans un texte tardif à la haute conscience poétique. Alors la haute conscience, quand est-ce que la conscience est haute? Quand est-ce que je suis hautement conscient? Je pense que nous ne sommes jamais aussi conscient de quoi que ce soit que lorsque nous prenons conscience. C'est-à-dire lorsque la conscience se lève, lorsque la conscience s'éveille, c'est là que la conscience est à son plus haut degré de possibilité. C'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de comprendre quand est-ce qu'une conscience se lève ou s'éveille. Parce que là, elle est haute. Voilà. Or, il me semble que quand je prends conscience de quelque chose, ce qui m'arrive, c'est que ce quelque chose qui m'arrive précisément, je ne le comprends pas. Ce que je comprends, ce pourquoi j'ai d'avance des catégories de pensée, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne jamais. Je veux dire, je comprends ça. L'habitude, la conscience amortie, etc., ça consiste à baisser le niveau d'étonnement. Donc, les choses qui ne m'étonnent pas sont les choses pour lesquelles j'ai de la compréhension, je dirais presque d'avance. Mais quand je ne comprends pas, ouais, quand quelque chose n'est pas d'entrée de jeu dans mes attendus conceptuels, là, il y a une chance que la conscience se lève, qu'elle soit haute, etc. Et je pense que paradoxalement, ce que Benjamin appelait la distraction, c'est une condition de la conscience. Il faut le montrer dans le texte de Benjamin, c'est très compliqué. Peu importe. Mais pour répondre, revenir à la question, donc je pense quelque chose de ce type-là, une des conditions de la conscience qui se prend et qui est haute parce qu'elle est en train d'avoir lieu, elle naît, c'est alors, ce qu'on pourrait appeler négativement des dislocations. Et ce que je préfère appeler positivement de la rythmicité ou de la spatialité. Et la spatialité, c'est un retour sur le temps. C'est pas une marche arrière, quoique j'ai parlé des curieux champ contre champ, soit de Antonioni, soit de Godard, avec des retours en arrière. Quand je suis dans un processus, on va dire, de signification, de sens, je ne suis pas attentif à ce qui se joue à l'instant. Ce qui m'intéresse quand j'écoute quelqu'un qui dit quelque chose de sensé, c'est ce qu'il va dire. C'est ce que cette personne va dire. Je suis au-delà de ce qu'elle est en train de dire. Alors, il y a des analyses fameuses, hein, de Husserl sur la musique là-dessus, dans lesquelles ils font l'analyse et les protensions-rétentions que Stigler a repris dans sa pensée du cinéma, avec quoi je discute pour ce qui me concerne. Dans un processus temporel, diégétique, narratif, etc., ce qui est là à l'instant ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux projeter de signification qui vient. Je suis à l'avenir dans un processus de sens et de signification. Dans la conscience qui se prend, dans la haute conscience, je suis au présent. Je suis à ce qui se présente, à ce qui arrive, etc. Et peut-être que, justement, la condition de l'arrivée de quelque chose qui implique de la haute conscience, c'est quelque chose qui va rompre avec les processus diégétiques, avec les processus temporels, etc., qui va ouvrir de l'espace. Donc je pense que le rythme, c'est ça. Et j'ajoute, je suis chaud, j'y vais. J'ajoute, après je m'arrête, je le laisse finir, parce qu'il y a un autre mot qui me revient à l'esprit, qui est celui de insignifiant, qui est un mot très important pour moi, parce que l'insignifiant, c'est pas rien. L'insignifiant, il faut absolument que nous arrivions à penser ça, à mon avis, l'insignifiant, ne pas confondre l'insignifiant et le négligeable. C'est pas négligeable l'insignifiant. Par exemple, il fait beau ce matin. Pour nos occupations fonctionnelles, c'est négligeable. Voilà. C'est insignifiant. C'est dommage que ça soit négligé, peut-être, justement. En tout cas, l'insignifiant, c'est pas rien. Donc, des moments rythmiques, par exemple, chant contre chant étrange du désert rouge, ça n'est pas signifiant dans le processus narratif. Voilà. Et pourtant, donc c'est insignifiant, il faut le dire. C'est un moment insignifiant du film. Et ben, c'est cet insignifiant-là qui va habiter ma mémoire du film et qui va faire que je ne le quitterai pas, ce film. Et qu'il ne me quittera pas. Qu'on s'aime, quoi. C'est que ceux dont nous avons la mémoire la plus vive, je pense, réfléchissez, je pense que c'est pour beaucoup des moments qu'on pourrait qualifier strictement de insignifiants.
Alors, ma troisième et dernière remarque tourne autour de l'idée de durée. Je disais, c'est un terme que les cinéastes et les critiques emploient beaucoup, et qui est en même temps assez mystérieux. Vous semblez évoquer cette idée, et vous venez en fait, tu viens de le faire, pardon, à nouveau, en soulignant l'importance des plans non narratifs dans les films d'Antonioni, dans ces blocs de temps qui nous éloignent de l'enchaînement classique des actions. Comme si, au fond, ce qui se jouait là était d'échapper à la tyrannie des règles de l'enchaînement des causes et des conséquences. Antonioni nous amènerait alors vers une sorte de temporalité quelconque, sans début ni fin, sans fonction ni enjeu. Et il me semble que le texte nous dit que la forme, où il y a quelque chose de la forme qui apparaît nécessairement dans ce type de rapport à la durée, dans ce type de temps, un temps autre que celui de l'enchaînement, un temps autre que celui que l'on présente par une flèche linéaire qui est au fond, ce que tu as dit avant, le sens. Cette idée est déjà présentée, de manière très explicite dans le texte, tout en étant, à mon sens, circonscrite au cinéma. Et j'aurais envie de poser donc cette dernière question. Penses-tu que ce rapport au temps insignifiant puisse en déborder et toucher à la question architecturale ?
Oui.
Et comment alors, à ce moment-là ?
Bon, alors il faut que je m'y mette, quoi. C'est un peu en vrac parce que finalement, je me suis lancé dans diverses considérations et peut-être que j'aurais pu en garder sous le coude pour répondre à cette question. Donc peut-être deux choses, mais je suis plus tout à fait capable de savoir si je dois commencer par l'une ou par l'autre. Donc peut-être une remarque d'abord sur le cinéma d'Antonioni en particulier. Il y a quelque chose de très remarquable et que j'essayais de faire remarquer dans l'article à partir duquel nous discutons ce matin, et qui est qu'il y a quelque chose de singulier à Monsieur Antonioni, en tant qu'il signe les films qu'on dit être les films d'Antonioni, qui est que, comment dire, il y a quelque chose... dans la constitution des personnages, donc on est dans le niveau narratif, disons, qui chez lui, pas toujours, mais quand même souvent, redouble la dynamique formelle. Et ça se traduit paradoxalement par le fait que les personnages de Antonioni sont volontiers des personnages qui s'intéressent à rien, qui s'ennuient terriblement, qui ne s'investissent pas dans quelque chose. J'ai utilisé le mot italien dans mon article, disoccupati. Alors il y a un film d'Antonioni dont le titre m'échappe à l'instant, qui est effectivement le filmage d'un chômeur. Mais je pense qu'on peut étendre ce mot. Ils sont désoccupés. Ce sont des personnages qui sont psychologiquement conçus comme n'ayant pas d'intérêt pour grand chose. Voilà. Et ce qui fait que ils se projettent pas. Ce sont des personnages dont la structure psychologique n'est pas faite de projection. Donc on pourrait évoquer, je pense à des textes de Heidegger par exemple, ramener ça du côté de méditation sur l'ennui. Et je pense qu'il y a un texte d'Heidegger relu par Agamben. La relecture de ce texte par Agamben me semble pouvoir lier ou permettre de lier l'expérience de l'ennui. Alors l'ennui, c'est il y a ça aussi dans le film de Godard. Qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire. L'ennui, c'est lorsque je ne suis pris par rien autour de moi. Je réponds pas, je fais rien. Je suis donc pas. On pourrait dire, en tout cas, c'est comme ça qu'Agamben relie le cours de Heidegger auquel il pense. Je ne suis pas dans un processus de stimulus-réponse. Autrement dit, peut-être c'est ce milieu fonctionnel. Je suis dans un tel état qu'il est défonctionnalisé pour moi. Voilà. Et il y a du vide. En tout cas, il n'y a pas de projection du sujet dans un avenir. Alors, on pourrait dire que du coup, le temps dure interminablement. C'est interminable. On pourrait dire aussi qu'il n'y a pas de mesure du temps, quoi. On est hors temps ou quelque chose de ce type-là. Donc, il me semble qu'il y a ça chez Antonioni, des personnages qui ne s'investissent pas, qui ne s'intéressent pas. Alors, je me disais, ça m'est arrivé de dire ça aux étudiants, mais c'était plutôt des questions. Est-ce que finalement, ça ne serait pas intéressant d'imaginer des espaces, des milieux à faible sollicitation? Qui sollicitent très peu, c'est-à-dire qui n'invitent pas à l'investissement ceux qui passent par là. Donc ce serait des espaces qui sont ennuyeux, dont on pourrait dire à un certain niveau d'analyse qu'ils sont ennuyeux. Je ne vais rien y faire de particulier. En tout cas, je ne vais pas répondre à des sollicitations parce qu'il n'y en aurait pas. Ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup ça dans le cinéma d'Antonioni, des personnages sollicités, ne se laissant pas solliciter, et d'ailleurs sollicités par presque rien. Rien ne les prend, rien ne les occupe, ils sont disoccupati. Bon. Mais peut-être que je pourrais aussi, pour essayer de mieux répondre à cette dernière question, plutôt que de parler de durée, je parlerai d'espacement. J'en ai un petit peu parlé. Le cinéma, c'est peut-être pas, ça consiste pas à fabriquer des objets temporels mélodieux. Hein. Alors la mélodie, Husserl analyse ça, et justement, d'une certaine manière, je m'inscris contre cette fameuse analyse de Husserl. La mélodie, c'est ce pourquoi je peux avoir ce que Husserl appelle des protensions. Hein, je vais entendre une note et elle va se situer dans mon esprit par rapport à d'autres que j'ai déjà entendues, et elle va également se situer dans un horizon d'attente, une protension, et dans la mélodie finalement la protension est satisfaite, hein, c'est-à-dire ce que j'attends finit par arriver, c'est une espèce de soulagement. La mélodie satisfait les investissements du sujet dans le tout à l'heure, ça va venir, j'attends cette note et elle va venir. Voilà. Au moment où Husserl écrit ça, il y a Schoenberg qui commence à faire du Schoenberg. Et ça m'a toujours frappé, parce que il me semble que moi je suis pas musicien, mais il me semble que la musique de Schoenberg, elle me fait pas entendre comment un son qui vient en complète un qui a déjà eu lieu. elle me fait entendre comment des sons se séparent les uns des autres, comment il y a un espacement entre le son d'avant et le son d'après. Alors c'est un peu ça que je dirais, que le cinéma, au sens où je l'entends, ne cherche pas à fabriquer des objets temporels mélodieux avec une chute qui satisfait l'attente, par exemple, du public ou du spectateur. Son affaire, c'est, alors j'ai mis ces mots-là pour essayer de dire quelque chose, une trouée dans le temps, je pose ces expressions-là, une trouée dans le temps, un éclat dans la signification. La couleur, c'est un éclat de lumière. Hein, la lumière, c'est un truc synthétique, ça marche ensemble, c'est des rayons qui marchent ensemble. Puis quand il y a la couleur, c'est un éclat de dans la synthèse lumineuse, pour dire les choses un peu rapidement, vous voyez. Des éclats, produire des éclats dans des processus signifiants. Ça serait pour moi du côté de la forme, du sentiment, etc. Des trouées dans le temps, c'est-à-dire un temps qui ne soit pas égal, uniforme, mais pas des trouées pour faire venir quelque chose qui va m'occuper l'esprit. Hein. Des trouées pour rien, juste faire un trou dans le temps.